écoutez Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel et 5h à Tokyo.
Marion Casanova.
Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, j'ai le plaisir de présenter ce journal en français facile avec Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous.
À la une de ce journal, le triplé jamaïcain au sprint aujourd'hui. L'or, l'argent et le bronze revient aux athlètes jamaïcaines avec même un record battu pour ces Jeux Olympiques. Israël accuse l'Iran d'être à l'origine de l'attaque de drones sur un cargo israélien qui a fait 2 morts cette semaine dans le golfe Persique. Et puis la mort de Jacob Desvarieux, père du Zouk et membre du groupe Kassav. Le Guadeloupéen est mort à 65 ans des suites du coronavirus.
Le journal en français facile.
Direction Tokyo tout d'abord avec cette nouvelle journée de compétition aux Jeux Olympiques. À retenir aujourd'hui le sourire des coureurs jamaïcaines.
Une belle performance en effet, elles ont tout gagné en finale du 100 mètres. L'or, le bronze et l'argent, un podium 100% jamaïcain. Et avec la déception également de l'ivoirienne Marie-Josée Talou, la sprinteuse termine en 4e position comme aux Jeux de Rio en 2016. Et comme à Rio aussi, l'or est pour Elaine Thompson, auteure d'une ligne droite époustouflante, Christophe Jousset.
Elaine Thompson a fait mieux que Florence Griffith Joyner. Pour 1/100, la Jamaïcaine a battu le record olympique que l'Américaine avait établi aux Jeux de Séoul en 1988, en laissant à l'époque l'impression que personne ne pourrait jamais faire mieux. Comme quoi, tout est possible, a commenté la désormais double championne olympique. 10 secondes 61, c'est aussi le 2e chrono de l'histoire derrière le record du monde de la même Flo Jo. Thompson peut jubiler, elle a survolé cette course en reléguant à bonne distance toute la concurrence, y compris ses 2 compatriotes, Shelly-Ann Fraser alias Mommy Rocket, prenant encore à 34 ans une superbe 2e place. Sherika Jackson complète ce podium made in Jamaica. Les 3 médailles du 100 mètres féminin pour un seul pays au JO, on l'avait déjà vu une fois, c'était en 2008 et c'était déjà les Jamaïcaines. Depuis, de jeu en jeu, elles n'ont jamais laissé échapper le titre de femme la plus rapide du monde. Christophe Jousset, Tokyo, RFI.
Et le judo français Marion a brillé aussi aujourd'hui avec une médaille d'or remportée en équipe mixte, emmenée par Teddy Riner et Clarisse Agbenienou.
Et en tennis, pas de podium, mais beaucoup de grimaces pour Novak Djokovic, le Serbe qui venait chercher une médaille d'or, le seul titre majeur qui manque à sa carrière, a perdu contre l'Espagnol Carreno Busta qui rafle donc le bronze. Après sa défaite, il a aussi déclaré forfait pour le match qu'il devait disputer en double mixte pour la médaille de bronze également.
Le journal en français facile.
La tension monte dans le golfe Persique après cette attaque de drones sur un cargo israélien, attaque pour le moment non revendiquée. Elle est survenue jeudi au large du sultanat d'Oman. Israël accuse l'Iran.
Israël annonce d'ailleurs sa volonté de porter l'affaire devant l'ONU. 2 membres de l'équipage de ce pétrolier ont été tués. Pour les experts militaires, il s'agit là d'un nouvel épisode de la guerre que mène dans ce secteur Israël et l'Iran. À Jérusalem, écoutons les précisions de Michel Paul.
L'attaque a fait 2 morts parmi l'équipage du Mercer Street, un navire battant pavillon libérien qui appartient à un milliardaire israélien, un ressortissant britannique et un marin d'origine roumaine. C'est le quartier résidentiel du cargo qui a été touché de plein fouet par au moins 1 drone kamikaze. Selon une source au sein des services de renseignement israéliens citée par le New York Times, l'attaque a été menée par l'Iran pour riposter aux raids aériens israéliens en Syrie. Il s'agit du 5e incident de ce genre dans le golfe Persique ces derniers mois, mais c'est la première fois qu'il y a des victimes. L'attaque a donné lieu à des consultations sécuritaires en Israël en plein Shabbat. L'Iran n'est pas seulement le problème d'Israël, c'est un problème mondial, a proclamé Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères, et les commentateurs ici sont unanimes, une riposte israélienne est inévitable. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Dès demain, ambassades et consulats américains en Russie ne pourront plus faire travailler des Russes. Une nouvelle mesure prise par Moscou en réaction aux sanctions américaines.
Et oui, des dizaines d'employés ont déjà été renvoyés. Moscou riposte ainsi aux sanctions décrétées par Joe Biden en mai dernier. Washington accuse la Russie d'ingérence électorale, c'est-à-dire d'une intervention illégale dans les élections présidentielles. Les États-Unis dénoncent aussi des cyberattaques, des attaques en ligne.
Et les services américains sur le sol russe vont donc être fortement affecté, c'est-à-dire touché par cette nouvelle contrainte, comme l'explique Jean-Didier Revoin à Moscou.
Depuis le 19 juillet et jusqu'à nouvel ordre, les services consulaires américains tournent au ralenti. Ils ne délivrent plus de visa ni de passeport, ni même de certificat de naissance pour les nouveau-nés dont les parents sont américains. Seules exceptions, un passeport sera renouvelé seulement si son titulaire en a besoin pour rester en conformité avec le droit russe et, pour le cas d'une urgence vitale démontrée, de se rendre aux États-Unis. Cette situation est dictée par un durcissement des règles russes. À partir du 1er août, Moscou a interdit aux missions américaines d'employer des ressortissants russes ou d'un pays tiers. Dans les faits, cela se traduit par le licenciement de 182 employés et de dizaines de vacataires collaborant avec l'ambassade et les consulats américains en Russie. Cette mesure a été décrétée par Moscou en mai dernier, après que l'administration Biden a imputé à la Russie de nouvelles cyberattaques et interdit aux banques américaines d'acheter de la dette russe. Alors même si Moscou et Washington affichent leur volonté commune de restaurer leurs relations, cette situation illustre la profonde dégradation des liens entre la Russie et les États-Unis. Jean-Didier Revoin, Moscou, RFI.
La fonte des glaces au Groenland s'est accélérée ces derniers jours.
Et oui, d'après des glaciologues danois, des experts, 8 milliards de tonnes de glace ont fondu chaque jour depuis mercredi, soit le double du rythme moyen observé en été. Un épisode de fonte massive et qui s'explique par des températures anormalement élevées avec jusqu'à 20 degrés de plus que les moyennes saisonnières. Des records ont même été battus.
Le père du zoo cantillé, Jacob Desvarieux, est mort à 65 ans des suites du coronavirus. Les hommages se multiplient dans le monde de la musique pour le chanteur et le guitariste guadeloupéen, membre emblématique de Kassav.
Le chanteur sénégalais Youssou N'Dour a réagi sur Twitter. Les Antilles, l'Afrique et la musique perdent l'un de ses plus grands ambassadeurs, dit-il. Le judoka guadeloupéen Teddy Riner, récemment médaillé à Tokyo, a salué une immense voix des Antilles. Retour donc sur une carrière internationale avec Muriel Malouf.
Allez, mais vous savez.
À travers notre musique, nous interrogions nos origines. Qu'est-ce qu'on faisait là, nous qui étions noirs et parlions français? Ainsi s'exprimait Jacob Desvarieux à l'origine du Zouk avec son groupe au milieu des années 80. Kassav, en référence à la cassave, une galette de manioc, est fondée en 1979 par des artistes guadeloupéens, Pierre-Édouard de Simus et Freddy Marshall. Il recrute d'autres musiciens dont Desvarieux, né en 1955 à Paris. Le guitariste revendique alors des influences rock. La base du style du groupe Kassav est le guoka, musique guadeloupéenne marquée par les tambours avec d'autres ingrédients des Caraïbes, compas haïtiens, begin et un emballage moderne avec de la basse, des cuivres et des claviers. Ce cocktail donnera naissance à des tubes festifs chantés en créole comme en 1984 « Zouk, là c'est sel médicament nous nie, le zouk est le seul médicament que nous avons » ou « Si et bois » 1987. Kassav atteint le pic de sa popularité à la fin des années 80. Il signe un contrat avec la multinationale du disque CBS, sort l'album Vinnie Pooh en 1987, disque de platine, monument aux Antilles et star en métropole. Le groupe est aussi très connu en Afrique. Le clip de Si et bois a d'ailleurs été tourné à Kinshasa.
Et voilà, on termine ce journal en français facile avec cette voix emblématique des Antilles, celle de Jacob Desvarieux. Et c'est ainsi que se termine cette édition présentée avec Sylvie Berruet. Merci Sylvie.
Merci Marion, à demain.
À demain. Il est maintenant 22h10 à Paris.